Pour que nature vive.
Pour que nature
vive. Pour que nature vive.
Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète.
Le vivant et notre planète.
Série spéciale Océan. Une odyssée avec les scientifiques du Muséum. Quel danger émerge avec l'exploitation industrielle des grands fonds océaniques ? Avec Bruno David.
Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font qu'il faut leur pardonner. Nul ne peut prétendre anticiper les conséquences de l'exploitation industrielle des fonds océaniques, l'endroit du globe que nous connaissons le moins. Mais jusqu'à quel point y jouons-nous les apprentis sorciers ? C'est ce que je vais demander à notre invité, le paléontologue, biologiste et président du Muséum National d'Histoire Naturelle, Bruno David. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous m'avez appris que seuls 12 hommes sont déjà allés sur la Lune, ce qui est peu, mais c'est beaucoup plus que ceux qui sont allés à 10 000 mètres sous l'eau, seulement 4. En quoi est-ce que cette méconnaissance des fonds marins est problématique quand on parle de leur exploitation ? Et deuxième question, si vous me permettez, quel risque supplémentaire fait-elle peser sur notre avenir ?
C'est problématique parce que finalement, on ne peut pas percevoir l'impact de nos activités en termes d'exploitation pour la pêche halieutique, comme en termes d'exploitation de minéraux ou de minerais qui seraient dans ces profondeurs. Puisqu'on ne connaît pas, bon, c'est difficile de projeter. On en a une connaissance quand même, on n'est pas totalement ignorant, mais la connaissance est très partielle. Je rappelle simplement qu'on connaît mieux et on a une meilleure cartographie de la surface de Mars que la cartographie dont on dispose pour le fond des océans. Et là, je peux vous livrer une anecdote très rapide. En 2013, j'ai fait une expédition dans l'Antarctique sur un bateau allemand qui s'appelle le Polar Stern. Et il y a un matin, on s'est réveillé et les marins nous ont dit on a failli couler cette nuit. On était au milieu de la mer de Weddell, sur des fonds qui étaient autour de 500 mètres de profondeur, et on est passé au-dessus d'un mont sous-marin qui était à 20 mètres sous la surface, et le bateau à 12 mètres de tirant d'eau. Et on est passé pile dessus par hasard. Ce mont n'était pas cartographié. Nulle part, on l'a cartographié, bien sûr, on l'a inventorié, on l'a baptisé dans la Commission géographique internationale. Mais ça vous donne une idée de notre méconnaissance du fond précis, de la topographie même, simple, des océans, sans parler de la biodiversité qui s'y trouve.
Et ça, c'est mondial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'équivalent d'un programme Apollo où on s'est dit « il faut qu'on comprenne tout ». Ces eaux, elles sont sous nos yeux et en fait, nous n'y allons jamais.
Mais c'est difficile parce que la surface de Mars, on peut envoyer des satellites qui vont tourner autour de la planète et qui vont cartographier automatiquement la planète. L'océan, il faut y aller. Il faut faire passer des bateaux partout si on veut vraiment avoir une bonne cartographie du fond. Et ce n'est pas seulement des bateaux qui navigueraient, il faut des bateaux avec des systèmes de relevé topographique du fond qu'on a, qui sont à base de sonars, qui sont relativement bien perfectionnés, mais qui n'ont pas encore sillonné tout l'océan mondial, ce qui fait qu'il y a une série de monts sous-marins qui sont encore totalement inconnus, on ne sait même pas qu'ils existent.
Et évidemment, contrairement à l'espace où État et grande fortune se livrent une surenchère pour essayer de conquérir l'espace, là, on n'a pas l'équivalent qui amènerait cette saine émulation pour découvrir ce qu'il y a au fond des océans.
Bah, finalement, nos appétits, c'est de dire, bah, on va commencer d'exploiter ce qu'on connaît, la partie qu'on connaît, et puis on verra bien si on trouve plus ailleurs, sans trop se soucier des impacts, c'est-à-dire sans trop se soucier de la manière dont fonctionnent ces écosystèmes profonds.
Si on parle des grandes plaines abyssales, quelles conséquences ça a d'aller chercher des minerais là-bas ? Est-ce qu'on peut le faire et avec quelles garanties ?
Alors, il est bien connu que dans certaines de ces grandes plaines abyssales, il y a des nodules qu'on appelle des nodules polymétalliques parce qu'ils renferment plusieurs métaux, notamment du fer et du nickel. Et par exemple, autour du petit îlot de Clipperton, qui est au large de l'Amérique du Nord dans le Pacifique, qui est un îlot français, il y a une grande plaine abyssale avec ces fameux nodules polymétalliques. Donc c'est tentant d'aller les chercher pour avoir des ressources de fer et de manganèse. Ce qui se passe, c'est qu'on a déjà la technologie pour y aller. En fait, la technologie pour y aller, c'est une technologie d'aspirateur. On a une sorte de gros robot qui va se déplacer sur le fond, qui est relié à un tuyau d'aspirateur et qui va aspirer ces nodules en direction de la surface où il y aura un bateau qui va les récupérer. Et puis au passage, ça va relarguer toute la vase qui aura été aspirée avec. Ça va faire un immense nuage de boue qui va progressivement retomber sur le fond. Et là, ça va plutôt avoir tendance à tuer toute la vie qui s'y trouve. D'ailleurs, le robot lui-même, en avançant, aura raclé le fond et donc aura aussi tué toute la vie qui se trouve à la surface du fond. Donc c'est très destructeur pour l'environnement. Maintenant, ces grandes plaines abyssales, elles sont absolument gigantesques. Et si on accepte de n'en exploiter qu'une partie, en préservant complètement d'autres parties, on peut imaginer qu'au bout d'un certain nombre d'années, les parties exploitées vont être recolonisées par de la vie qui sera venue d'à côté. Donc le dommage sera réparé, en quelque sorte. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est vrai, ce qui fait qu'on peut imaginer faire la part du feu. Ça ne serait pas mon choix. Mon choix personnel serait plutôt de ne pas y toucher. Mais ça n'est pas totalement inenvisageable. Il y a quand même un chemin qui permet, au moins en partie, une exploitation de ces nodules polymétalliques.
Avec quelle garantie on peut espérer que cette fameuse réparation que vous venez de mentionner ait lieu, et à quelle échelle de temps est-ce que ça se passerait ?
Alors, on a des expériences humaines qui ont été faites pour voir à quelle vitesse se recolonise le fond sous-marin, qui ont été faites à partir d'un bateau qui a raclé le fond sur une surface circulaire d'à peu près 1000 marins de rayon. Et on est revenu 7 ans après pour voir comment s'était effectuée la colonisation. Et en effet, les environnements sont recolonisés. On a une expérience naturelle qui est le raclage des fonds par les grands icebergs qui vont se détacher de l'Antarctique, qui vont complètement racler le fond, qui vont arracher toute vie de ce fond-là. Et quelques années plus tard, on voit comment, avec quelle dynamique, la biodiversité se réinstalle sur ces secteurs. Donc il y a une capacité de réinstallation dès lors que les surfaces d'à côté ont été laissées intactes. Il faut quand même que la vie puisse revenir des régions voisines et qu'elle ne soit pas trop éloignée. Donc ça, on le sait. Et on sait avec quelle dynamique ça peut se produire.
Et alors, concernant les monts sous-marins, qu'on connaît mal, puisqu'ils ont failli faire couler votre embarcation il y a quelques années, vous m'avez dit que leur exploitation serait aussi judicieuse que d'aller traquer les oasis du désert pour leur bois. Est-ce que vous pouvez vous expliquer, parce que c'est une analogie assez inquiétante ?
Oui, alors on a des montagnes sous la mer, dont le sommet se rapproche de la surface, jusqu'à 100 mètres de la surface, ou 20 mètres pour le mont sous-marin qu'on a découvert avec le Polar Stern. Alors, quand on se rapproche de la surface, il y a de la lumière, donc il y a beaucoup de vie qui va s'installer. Et on a le même phénomène que sur les archipels ou sur les îles, qui elles sortent complètement de l'eau. On a des phénomènes d'endémisme important, c'est-à-dire de faune et de flore très particulières qui sont liées à tel ou tel mont sous-marin. Donc ce sont des oasis de biodiversité, pas très loin de la surface, qui sont plantées dans les plaines abyssales et qui remontent à ces profondeurs beaucoup plus acceptables pour la vie. Et chaque fois, on a une vie particulière, avec des espèces particulières. Et évidemment, c'est une vie qui est concentrée sur une petite surface. Donc c'est très fragile. Il se trouve qu'associés à ces monts, qui sont souvent des édifices volcaniques, il y a des sortes de fumerolles, si vous voulez, qui vont s'en échapper. Il y a des fluides qui vont s'en échapper, comme sur un volcan terrestre. Et ça va amener le dépôt, notamment, de sulfure, qui sont riches en différents types de métaux, alors que ça soit du cobalt, du titane, du nickel, du platine, du zirconium, du vanadium, il peut y avoir de l'or, il peut y avoir de l'argent, enfin il y a énormément de métaux qui sont d'intérêt économique. Simplement, l'exploitation serait extrêmement destructrice. On ne peut pas aller exploiter ces monts sous-marins sans détruire la biodiversité qui s'y trouve. Et comme je l'expliquais, c'est une biodiversité très particulière, donc c'est un petit peu comme si on allait détruire un par un les atolls du Pacifique pour exploiter les forêts qui s'y trouvent, par exemple, et les raser complètement. Donc là, je deviens plus rapidement en colère, on va le dire, et je dis attention, stop, là par contre, on ne doit pas y aller, même si ces métaux, ces minerais sont d'intérêt économique important. On devrait réfréner nos appétits, on ne devrait pas aller les exploiter parce que c'est porter atteinte à des biodiversités largement inconnues et dont on sait quand même qu'elles sont diverses et qu'elles sont très spécifiques, très particulières.
L'ensemble des minerais que vous évoquez, ils sont absolument déterminants et indispensables pour les outils de notre quotidien à nous tous désormais sur la planète, et plus seulement les occidentaux, puisque c'est ce qui permet de fabriquer des processeurs pour les nouvelles technologies, à commencer par les téléphones intelligents, mais aussi les ordinateurs, les tablettes, qui sont devenu quasi indispensable à la survie des humains sur Terre, en tout cas dans l'esprit de beaucoup de gens. Et donc il faut mettre ça en balance avec une biodiversité inconnue de la majorité des êtres humains. Alors évidemment, je comprends que vous, en tant que scientifique, vous disiez qu'il faut préserver les seconds, mais vous comprenez que dans le débat public, c'est pas toujours entendu. Donc est-ce que vous pourriez nous livrer un plaidoyer pour préserver l'inconnu ?
Bah, si vous voulez, moi je pense qu'on n'a pas le droit, sur un plan éthique, de détruire des pans entiers de la biodiversité, et notamment si elle n'est pas encore connue par les scientifiques, décrite scientifiquement, on n'a pas le droit d'en priver les générations qui vont nous succéder. On ne sait pas quel type de médicaments, par exemple, on pourrait tirer de cette biodiversité, qui pourrait apporter des avantages qu'on ne connaît pas encore, mais qui sont supérieurs éventuellement à l'exploitation des métaux et minerais que renferment ces monts sous-marins. On peut peut-être appuyer plus sur l'accélérateur du recyclage et de l'économie circulaire avant d'aller exploiter des environnements qui sont finalement aussi précieux. C'est un petit peu comme si on allait exploiter les oasis du Sahara pour leur bois et qu'on allait couper le bois dans les oasis sahariennes, alors même qu'on sait que ces oasis sont relativement précieuses et qu'il n'y en a pas tant que ça. C'est un petit peu la même chose avec ces monts sous-marins, et ça serait la même chose aussi avec les environnements des sources hydrothermales qui renferment aussi toute une série d'éléments intéressants pour nous. On va retrouver là aussi du cobalt, du titane, du nickel, et de l'or, de l'argent, du cadmium, du germanium, qui sont des produits qui nous intéressent, qui font briller les yeux de nos industriels. Mais peut-être qu'il faudrait réfréner nos appétits encore une fois.
Alors, pour conclure tout à fait, qu'est-ce que vous conseilleriez aux chefs d'État qui viennent vous voir et qui vous demandent ce qu'on peut aller chercher au fond de l'océan ? Quelle boussole vous leur donneriez à propos aussi bien de la pêche que des minerais pour leur dire ce qu'il faut prélever et ce qu'on doit à tout prix préserver ?
Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie dans les grandes profondeurs est une vie qui tient sur un équilibre assez instable dans la mesure où il y a très peu de matière organique qui y parvient et qui vient de la surface. Donc globalement, c'est une vie qui tient sur un fil, un petit peu en équilibre, comme un funambule. Les poissons, par exemple, qui vivent dans ces environnements profonds, sont des poissons centenaires. Ils ont un métabolisme extrêmement lent parce qu'on est dans des eaux froides. Ils grandissent très lentement. Donc chaque fois qu'on prélève un de ces poissons, on mange un steak de poisson centenaire. Il a fallu 100 ans pour fabriquer ce steak de poisson. Il faut en avoir conscience. Si on fait une analogie avec une forêt de chêne centenaire, on imagine bien que si on coupe toute la forêt de chêne centenaire, et bien au bout d'un moment, ça ne va plus aller. On ne peut pas se permettre de la couper tous les ans. Et c'est ce qu'on fait pourtant avec ces poissons très profonds. Donc si j'avais un message à passer, je dirais attention, ces environnements profonds reposent sur des équilibres extrêmement fragiles, sur des métabolismes lents, sur des renouvellements des écosystèmes profonds qui sont totalement différents de la dynamique qu'on peut trouver sur Terre ou dans des environnements moins profonds en mer. Et donc, la première chose, ça serait d'être prudent, ça serait de les respecter, et ça serait finalement de se donner à nous-mêmes des limites et d'être un peu moins qu'on a pu l'être par le passé des prédateurs de la planète.
Pour conclure sur une note tout à fait optimiste, justement, un des manifestes du muséum s'appelait « Face aux limites ». En discutant, en faisant entendre le discours de la science aux décideurs économiques, parfois on arrive à leur en imposer. Je ne vais pas citer le nom, mais je sais que vous avez discuté avec des patrons de grandes enseignes agroalimentaires qui avaient la mauvaise habitude d'aller pêcher extrêmement profond, et vous leur avez dit que c'était non seulement pas leur intérêt économique, mais c'était surtout pas l'intérêt de la soutenabilité de la planète que de continuer ces pratiques. Et ils ont arrêté. Donc c'est possible.
C'est possible. Il faut garder espoir. Nous avons des marges de progrès. En ce qui concerne les grands fonds, je pense que c'est vraiment un environnement sur lequel on devrait appliquer, disons, modérer nos appétits.
Dans cet épisode, vous venez d'écouter Bruno David, paléontologue, biologiste et président du Muséum national d'histoire naturelle, interviewé par Vincent Hédin. Pour que nature vive, un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective. Avec le soutien du Crédit Agricole et de la financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre Avant que nature meure de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée Pour que nature vive, qui a inspiré le titre de ce podcast.